I am your voice.
Nous sommes deux vieilles nations dans le monde.
Le Royaume-Uni et la France.
تكون لعنة عليكم
نفديك يا أقصى
إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها
بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم وهم لكم
Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahali Mrim Abdou, pour vous accompagner au micro. Au Sahel, la multiplication des dispositifs sécuritaires ne parvient pas à enrayer une violence qui se diffuse. Les prévisions évoquées au Conseil de sécurité font état de plus de 12 millions de personnes ayant besoin d'aide humanitaire dans la sous-région, avec plus de 5 millions de déplacés. Sur le plan sécuritaire strict, la menace terroriste reste jugée élevée avec un risque d'attentat et d'enlèvement. Ces éléments montrent que la crise combine insécurité, déplacements massifs, effondrement des services publics et insécurité économique et alimentaire. Les enjeux globaux du Sahel sont d'abord sécuritaires, mais ils sont en réalité imbriqués avec des enjeux politiques, socio-économique, climatique et géopolitique qui dépasse largement la région. Le Sahel est un espace de projection et de concurrence autour de la sécurité, de l'énergie et des routes migratoires. Omar Aliou Touré, président de la commission de la CDAO, appelle à un sursaut urgent et coordonné.
Malheureusement, la situation dans notre région est caractérisée par la méfiance et un niveau élevé de suspicion entre les parties prenantes. Aucune somme d'argent, aucun équipement ne nous aidera à vaincre le terrorisme si nous ne collaborons pas et ne créons pas de synergie.
Avec nous en ligne, Monsieur Azizou Garba Brimaka, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes fondateur du Centre africain de réflexion sur les enjeux globaux. Monsieur Azizou Garba Brimaka, comment jugez-vous ce qui a été accompli ou ce qui est accompli dans le Sahel?
Si je reviens ici, chez nous, dans le Sahel, ça fait aussi 10 ans qu'on fait face au terrorisme. Et d'autres pays comme le Soudan connaissent une guerre civile et tout ça là est assez terrifiant. On voit que vraiment le monde se porte mal à tous les niveaux.
En ce sens, Monsieur Brimaka, quel rôle jouent aujourd'hui les alliances régionales pour, on va dire, implanter la sécurité là où l'insécurité semble avoir pris racine, Monsieur Azizou Garba Brimaka?
Aujourd'hui, on fait face vraiment à une menace de type asymétrique qu'est le terrorisme et qui ne connaît pas de frontières. Aujourd'hui, il n'y a aucun État qui seul peut faire face, en tout cas, à ce phénomène. Et il ne faut pas perdre de vue que nos États sahéliens aussi sont des États fragiles. Si votre pays, l'Algérie, a pu régler ce problème seul et qu'on peut plus parler de ce phénomène dans votre pays, ce n'est pas le cas dans les pays sahéliens qui sont fragiles et qui rencontrent beaucoup de difficultés et de défis structurels. Donc, à partir de ce moment, un seul État ne peut pas régler ce phénomène comme l'Algérie, qui est quand même une puissance, a pu le faire. Donc, les alliances, c'est tout à fait normal, mais les alliances, il faut les élargir au-delà des seuls pays qui sont concernés. Et je pense que c'est dans ces conditions seulement qu'on peut peut-être arriver à bout de ce phénomène, qui n'est pas aussi seulement militaire et qui a plusieurs dimensions. C'est pourquoi il faut toujours allier l'option militaire à l'option civile.
Vous parlez souvent, Monsieur Azizou Garba Brimaka, vous parlez souvent de guerre asymétrique entre les États sahéliens et les groupes armés. Comment définissez-vous cette asymétrie?
c'est les États sahéliens face à des acteurs de violence qui sont au sein de la population. Donc, je la définis comme vraiment une guerre des États contre un ennemi invisible, parce que l'ennemi est au sein de ces mêmes États. C'est des ennemis qui viennent de l'extérieur, qu'on voit et qu'on localise, à qui on peut mener une guerre conventionnelle. Tel n'est pas le cas, malheureusement. Donc, c'est difficile de combattre ce type de violence sans pour autant vraiment aussi jouer sur les questions de développement, parce que ce qui détient les Kalachnikovs, c'est des jeunes de ces États, c'est des jeunes désœuvrés et à qui certains acteurs vendent des illusions en les embarquant dans cette violence qui, malheureusement, est en train de devenir une menace existentielle pour nos États.
Quels sont les outils dont disposent les États pour pouvoir récupérer ces jeunes? J'allais dire, quelles sont les limites de la responsabilité des États avant de poser la question, celle relative aux outils dont disposent les États pour récupérer ces jeunes, Monsieur Azizou Garba Brimeka?
Oui, les limites, c'est que l'ennemi est invisible parce que c'est au sein même de ces mêmes populations. C'est tout à fait difficile de savoir qui est terroriste, qui ne l'est pas, parce que c'est pas quelque chose qui est écrit sur les fronts des gens. C'est pour cela qu'il faut jouer sur les questions de développement, trouver de l'emploi pour les jeunes, renforcer l'entrepreneuriat et trouver des débouchés pour les jeunes et essayer de les sortir de la précarité, du désœuvrement, trouver une occupation et une dignité, parce que c'est ce qu'ils demandent.
Comment analysez-vous l'évolution de la présence ou du retrait de certaines parties qualifiées de partenaires extérieurs, Monsieur Brimeka?
Le partenariat sécuritaire, il faut l'élargir et aller vers même ceux qui ne sont pas directement concernés. Le partenariat, quelles qu'en soient les circonstances, est toujours utile et on ne peut pas s'en démarquer. C'est difficile, surtout que, je le disais tantôt, nous avons des États fragiles qui font face à beaucoup de défis. On ne peut pas seul faire face à ce phénomène sans partenaire. Aussi, le partenariat Sud-Sud qui peut aussi venir d'autres pays comme l'Algérie, par exemple.
Monsieur Garba Brimeka, vous participez à des structures de réflexion stratégique africaine. Comment voyez-vous la contribution ou la création de centres de réflexion stratégique africaine? Quelle vision avez-vous du rôle de ces think tanks africains dans la production d'idées et de politiques publiques, Monsieur Brimeka?
Moi, je pense que très tôt, les Américains ont compris. Leur origine vient de l'Amérique du Nord, semble-t-il. Aujourd'hui, on ne peut que réfléchir en amont avant de prendre des décisions qui seront opérationnalisées sur le terrain. Dans ce sens, les think tanks sont des outils d'aide à la décision politique qui sont très importants pour les pays africains et aussi pour les pays sahéliens qui font face surtout à une menace qu'ils n'ont pas connue avant, parce que nos pays, si je prends le Niger ou le Mali, ont connu des rébellions, on a connu d'autres types de conflits internes. Là, c'est un nouveau type de conflit. Et je pense que si on avait des think tanks dignes du nom à l'époque, on aurait dû anticiper que ce phénomène allait venir et que si ça devrait être le cas, il fallait anticiper les solutions.
Allons dans cet ordre d'idées, ou en tout cas dans cet ordre de réflexion. Vous préparez, publiez des travaux sur les affaires militaires et le rôle des armées africaines au-delà, dites-vous, expliquez-vous, des coups d'État. Dans ces conditions, Monsieur Azizou Garba Brimeka, comment faut-il repenser le lien entre armée, État et société au Sahel et en Afrique plus globalement?
Il faut d'abord commencer par créer la confiance. Il faut créer la confiance entre les armées nationales et leur population. Parce que aujourd'hui, c'est la sécurité qui est au centre. L'enjeu, c'est la sécurité et c'est de ça les populations ont besoin. Aujourd'hui, les populations ont besoin de protection. Les armées doivent leur procurer cette protection sur la base d'une confiance mutuelle. Et le politique aussi doit jouer son rôle de développement, d'intégration professionnelle de cette jeunesse désœuvrée qui ont choisi la voie des armes et de la violence.
Et dans ce sens, ou en ce sens, quel modèle de relation civilo-militaire, appelons les choses ainsi, vous semble-t-il le plus pertinent pour les États du Sahel aujourd'hui, Monsieur Azizou Garba Brimeka?
Je pense que on a besoin à ce que chacun joue son rôle, parce que je suis convaincu que dans une instabilité politique, on ne peut pas régler la question de sécurité. Il faut d'abord revenir à une stabilité politique, et c'est dans le cadre, en tout cas, de la démocratie, que chaque institution puisse jouer son rôle.
Comment envisagez-vous, ou alors comment pensez-vous, la coordination sécuritaire afin de contrer les groupes armés, Monsieur Azizou Garba Brimaka?
La coordination sécuritaire doit être élargie, à mon sens. Si je prends le cas du Niger, dont une grande partie est saharienne, je pense que on a plus intérêt aussi à collaborer avec les pays sahariens, nos voisins directs. Je pense à l'Algérie, à la Libye, je pense aussi au Nigeria et aussi d'autres partenaires clés qui peuvent, en tout cas, apporter une aide significative dans la lutte contre le terrorisme.
Quand vous dites partenaires clés, c'est-à-dire?
Des partenaires qui ont, en tout cas, beaucoup de moyens, que ça soit logistique, qui peuvent aider dans le renseignement, mais pas des partenaires qui vont venir sur la base de contrats sécuritaires.
C'est ça, c'est-à-dire que vous parlez de partenaires de la région et non des partenaires, on va dire, extérieurs à la région, si j'entends bien votre propos, Monsieur Azizou Garba.
Non, pourquoi pas les deux, les partenaires de la région et aussi des partenaires extérieurs à la région. Les deux, il faut s'ouvrir parce qu'on ne peut pas s'isoler. La menace, elle est transnationale, elle est internationale. Donc, on ne peut pas se fermer. Et vu d'ailleurs les moyens dont nos États disposent et tous ces défis, on ne peut pas s'enfermer, s'isoler et penser que on peut gagner.
Seulement, les partenaires qui sont extérieurs à la région ne font pas dans le mécénat, Monsieur Azizou Garba Brimaka. Vous êtes d'accord? S'ils viennent armés bagages, c'est en contrepartie de quelque chose. On va dire, ils ne font pas les choses bénévolement. Il y a certainement une contrepartie. Et c'est une contrepartie qui pourrait être coûteuse pour les pays de la région.
Vous savez, dans un partenariat, on négocie, on oblige. Jamais quelqu'un avec une arme sur la tempe pour signer une convention de partenariat.
Oui.
Donc, c'est à nos États de savoir qu'est-ce qu'il faut signer, qu'est-ce qu'il faut permettre et ce qu'il ne faut pas permettre. Mais c'est de ne pas couper directement pour dire que bon, on veut aucun partenariat. Moi, à mon avis, je pense que c'est pas une bonne posture. Mais il faut savoir signer les conventions. Il faut savoir signer un bon partenariat gagnant-gagnant qui ne sera pas nuisible et qui peut être révisé en fonction aussi de certains imprévus. Je pense que dans ce sens, tout partenariat bénéfique est utile.
C'est juste. Sauf que même l'adage le dit, celui qui porte le fusil qui a raison. Mais bon, ceci reste juste un adage. La pratique est effectivement différente. Monsieur Azizou Garba Brimaka, dans une récente interview, vous affirmez que l'armée nigérienne, vous parliez de l'armée nigérienne, est capable d'assurer la sécurité de l'État malgré la répétition des attaques. Sur quel élément fondez-vous cette appréciation?
Vous savez, notre armée est montée en puissance depuis 12 ans maintenant, parce que il ne faut pas perdre de vue que quand même des trois pays du Sahel affectés par le terrorisme, le Niger est le seul, en tout cas, qui a pu préserver ses frontières, qui a pu assurer l'intégrité du territoire. Et ça, c'est en partie aux politiques publiques qui ont été mises en œuvre ces 12 ans-là, et aussi l'investissement qui a été fait au niveau de l'armée.
Alors, à propos de perspectives et d'avenir, vous insistez souvent sur la nécessité de former une nouvelle génération de chercheurs africains sur la sécurité et la géopolitique. Pourquoi insistez-vous autant sur ces deux facteurs, Monsieur Azizou Garba Brimaka? Quel type de profil ou de compétences faut-il, selon vous, développer en priorité?
Oui, je le dis parce que je voyage beaucoup, on m'invite beaucoup dans les conférences à l'international sur les enjeux sécuritaires. Et chaque fois quand j'y participe, je suis le seul Nigérien. Je vais bientôt partir en Afrique du Sud, à Pretoria, pour une conférence internationale qui regroupe 5 000 personnes. Je suis le seul Nigérien qui va participer. Je serai bientôt aussi, après cette conférence, à Madrid, où je suis le seul Nigérien. Donc, il y a quelque part vraiment un manque de ressources et je pense que il faut investir dans l'enseignement supérieur, il faut investir dans la recherche et il faut encourager les jeunes quand vous donnez des occasions comme ça à des personnes comme moi. Je ne peux que le répéter, le souhaiter et le recommander.
Monsieur Azizou Garba Brimaka, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci infiniment, monsieur.
Merci.
Azizou Garba Brimaka est fondateur du Centre africain de réflexion sur les enjeux globaux.
Nous, notre combat, c'est pas arabe, touareg, noir ou blanc. Et notre guerre, c'est une guerre sainte, c'est une guerre légale. Nous sommes contre les rébellions, nous sommes contre l'indépendance de ces universités d'indépendance. Nous sommes contre... Il y a toutes les révolutions qui ne sont pas au nom de l'islam, nous sommes contre.
1858, le traité de Berlin est signé à la suite de la conférence de Berlin par la France, le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et l'Allemagne. Il détermine les règles de comportement auxquelles les puissances acceptent de se soumettre dans le cadre de leurs politiques africaines respectives. Les États-Unis s'efforcent d'asseoir leur pouvoir sur le continent africain, tantôt pour des raisons humanitaires, tantôt pour des raisons sécuritaires. Rudolf Atallah, porte-parole du programme américain de lutte contre le terrorisme en Afrique.
Le Sahel a joué un rôle clé en ce qui concerne la circulation des armes, des combattants venus de l'étranger et le crime organisé. À la même époque, de grandes quantités de cocaïne ont également commencé à transiter par le Sahel. Donc tout cela suscitait beaucoup d'intérêt et il n'a cessé de se développer.
Comment ont été introduits les groupes armés dans la zone du Sahel, zone hautement stratégique? Jérémy Kenan, auteur de Dark Sahara, y revient.
En 2002, le Pentagone a dressé une série de cartes qui délimitaient toute cette partie de l'Afrique comme un couloir terroriste. Le discours officiel du Pentagone était que ces terroristes étaient venus d'Afghanistan, dont ils avaient été chassés par les forces américaines. On sait maintenant que c'était faux. Ils étaient passés par le pays de Ben Laden, le Soudan, et pour rejoindre des terroristes en Afrique du Nord, ils étaient arrivés par cette ceinture en forme de banane.
Après le 11 septembre 2001, Washington met un pied au Sahara dans le cadre officiel de la dite lutte contre le terrorisme. Et d'autres batailles semblent se cacher derrière ce combat. La zone saharienne abrite les plus grandes réserves pétrolières d'Afrique, de l'uranium, du fer et de l'or. Parallèlement, la France également renforce sa présence militaire sur le territoire. Derrière ces opérations se joue le contrôle des ressources africaines.
Il y a eu à cette époque aux États-Unis quelque chose de plus important peut-être que le 11 septembre. La publication de ce qu'on appelle communément le rapport Cheney. C'était le premier ordre exécutif donné par le président Bush après son arrivée au pouvoir. Et il consistait à faire le point sur la crise énergétique aux États-Unis. En 1997, l'importation de l'énergie et du pétrole dépassait le niveau de 50%. Psychologiquement, c'était un seuil critique. Ce rapport se focalisait sur les futures ressources de pétrole, et naturellement sur l'Afrique, qui promettait de devenir le premier fournisseur de pétrole de qualité susceptible d'alimenter les infrastructures américaines. Encore plus que le Golfe. Si bien que, d'un seul coup, l'Afrique a pris une importance cruciale pour la classe politique à Washington.
Rappelle que le Sahel demeure l'épicentre mondial de l'extrémisme violent avec des groupes affiliés à Daesh et Al-Qaïda qui étendent leur aire géographique, perturbent les services essentiels et l'accès humanitaire. Selon le HCR, plus de 3,3 millions de personnes sont déplacées de force dans le Sahel central à cause des conflits, avec 2,8 millions de déplacés internes recensés sur les 4 dernières années et une hausse parallèle du nombre de réfugiés vers les pays voisins. Avec nous en ligne, Monsieur Hassan Moulay, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes enseignant, chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Monsieur Hassan Moulay, la maîtrise des risques dans la zone sahélienne nécessite-t-elle, comme cela est indiqué, une stratégie globale ?
La grosse difficulté qu'on a, c'est que entre ce qui est écrit et ce qui est pratiqué, il y a souvent, malheureusement, des décalages. Et ce sont ces décalages-là qui font que les résultats se font toujours attendre. Dans tous les cas, nous avons des problèmes multiples au niveau de tous les pays de la sous-région, tous les pays du Sahel. Les niveaux sont peut-être variables, mais la souffrance est la même. Maintenant, à partir du moment où la souffrance est la même, je crois que nous devrions travailler ensemble pour combattre les éléments qui entrent dans la composition de cette souffrance.
Quelle est aujourd'hui, en ce sens, la responsabilité des élites et des décideurs locaux ?
Vous savez, nos États, d'une manière générale, baignent dans des difficultés économiques depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis les ajustements structurels de la Banque mondiale et du FMI, qui ont eu pour conséquence affaiblir les États. Donc, les États n'ont pas pu répondre à la dynamique du nombre des populations, mais aussi les demandes qui, pratiquement tous les 15 ans, se multiplient. C'est la raison pour laquelle on a ces difficultés-là. Et les élites, malheureusement, ont fait un choix depuis une trentaine d'années d'aller se mettre dans le dispositif mis en place par les institutions. Là, nous constatons maintenant que, en tout cas, le choix n'était pas le bon choix pour les États. Les États modernes, comme je l'ai dit, depuis une trentaine d'années, baignent dans des difficultés économiques. Des pays qui, en 1960, avaient 2-3 millions d'habitants, aujourd'hui, se trouve avec 20 à 25 millions d'habitants. La demande se multiplie, le disponible n'évolue pas au même rythme. C'est tout à fait normal que, quelque part, une bonne partie de la population soit complètement marginalisée par rapport au fonctionnement des États.
Cette exacerbation que vous citez à l'instant des crises sociales a eu donc un impact immédiat sur là où les situations sécuritaires ?
En réalité, nous, on avait plutôt peur d'un problème au niveau des cités, c'est-à-dire les villes. Maintenant que c'est venu pour des raisons que l'on connaît maintenant, la crise est venue de l'extérieur. Sinon, la crainte était plutôt une implosion au niveau des grandes cités.
Quand vous dites de l'extérieur, ça voudrait dire ?
C'est-à-dire que actuellement, la partie périphérique que l'État n'arrive pas à contrôler, c'est à partir de là que la crise a éclaté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que heureusement, depuis quelque temps, les choses commencent à se calmer un peu. En tout cas, on constate ça au niveau de tous les pays du Sahel. Mais il est évident que les attentes des populations et les réponses que les différents États ont pu donner, il n'y a pas eu de concordance, c'est ce qui explique un peu la crise.
Le Sahel est devenu, Monsieur Moulay Hassan, le Sahel est devenu le théâtre d'opérations de trafic de tout genre. Cet environnement a-t-il permis, voire favorisé ces alliances ?
Bien entendu, à partir du moment où il y a une crise où l'État n'arrive pas à imposer les différentes lois qui régissent les pays, c'est tout à fait normal que d'autres groupes qui ne veulent pas rentrer dans la légalité puissent se développer dans la périphérie. C'est à quoi nous avons assisté à un moment. Il faut se dire qu'on a des systèmes politiques qui ne sont pas les mêmes. Au Nigeria,
par exemple,
vous avez une fédération des États, donc au niveau de chaque État local à sa politique particulière. Ce qui fait que les gens avaient une certaine autonomie au niveau de leur entreprise. Et nous, nous avons été victimes de cela parce que tout simplement, ces groupes-là se sont organisés à partir de notre pays du Sud et on a vu ce que ça a donné. Il y a eu un déversement de la violence au niveau de notre côté, notamment la région de Diffa. Organisé de l'autre côté par des groupes qui étaient bien structurés et malheureusement nous avons payé les frais parce que nous avons eu beaucoup de morts et beaucoup de gens qui souffrent. Il y a des déplacés, il y a des orphelins. Heureusement, comme je l'ai dit à un instant, la situation se calme un tout petit peu. Peut-être au niveau du Nigeria, il y a des actions qui sont menées. Au niveau du Niger aussi, je pense que l'armée se réorganise et s'adapte à la méthode de combat. C'est peut-être ça qui nous donne le résultat que nous avons actuellement.
Ça me conduit à vous poser cette dernière question, l'impératif des pays du Sahel dans la réalisation d'une identité politique, Monsieur Moulay Hassen. Est-ce que ceci est envisageable? Est-ce que ça pourrait constituer une forme d'alternative, si je puis m'exprimer ainsi?
En réalité, ce n'est pas la volonté qui manque, parce que quand vous regardez la composition des différentes communautés au niveau de tout le Sahel, on voit très bien que les frontières sont artificielles. Au sud, par exemple, si vous prenez, on a 1500 kilomètres avec le Nigeria, vous avez une population très importante au Nigeria, qu'on appelle les Hausa, et on les retrouve au Niger. Au Niger, ils sont même majoritaires. Donc, faire une union entre le Niger et le Nigeria, normalement, s'il n'y a pas d'interférence extérieure, ça ne devait pas poser de problème. Vous montez vers le nord, nous avons des populations arabes et touaregs au Niger, et vous avez des populations touaregs et arabes au niveau de l'Algérie, par exemple, un grand pays voisin, avec lequel on a intérêt d'ailleurs à beaucoup travailler pour ramener le calme. Et si vous allez au niveau de la frontière avec le Mali, vous avez les Sonraï, vous avez les Touaregs, vous avez les Arabes qui sont de part et d'autre de la frontière. Au niveau du Burkina, vous allez trouver les Peuls, vous allez trouver les Moussi, vous allez trouver les Gourmandji, vous allez trouver les Sonraï. Donc c'est pour vous dire que cette région-là, normalement, construire une unité ne devait pas poser de problème. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde où dès que tu parles d'unité, vous avez des forces étrangères qui ont des intérêts et qui n'ont pas intérêt à ce que les gens se retrouvent pour créer une unité qui devait ramener la paix entre les populations et les communautés.
Vous êtes en train de nous dire que la réalisation d'une identité politique dont les ingrédients existent et sont là est de facto empêchée de l'extérieur par des ingérences extérieures en l'occurrence.
Mais bien sûr, je veux dire, dès que vous voulez vous mettre ensemble, ça veut dire tout simplement que vous allez constituer une force. Il y a des éléments extérieurs qui vont penser que votre force peut constituer un obstacle pour leur intérêt. Donc, ils vont tout faire pour l'en empêcher.
Il y a eu, dans un passé très récent, des gouvernements de cette région qui ont fait appel à des puissances étrangères.
Oui, parce que les États ne travaillaient pas ensemble. À partir du moment où vous êtes faible, qu'est-ce que vous faites? Vous faites appel à l'extérieur, sous la menace de la violence. Vous n'avez d'autre choix que ou vous faites appel à l'extérieur, ou bien vous demandez à tous les voisins de se réunir pour mutualiser leurs moyens et faire face au danger. Mais malheureusement, nous avons opté pour l'autre option, qui était de faire venir les forces extérieures. C'est vrai qu'il y a eu cette violence-là avec Boko Haram, et pour le cas du Niger, il y a Boko Haram et le problème malien. Mais au niveau des villes, on a encore ces courants fondamentalistes qui se développent. Seulement maintenant, on ne sait pas pendant combien de temps on va pouvoir les gérer. Mais la réalité, elle est là.
Merci beaucoup, Monsieur Moulay Hassen, d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Le Sahel cumule pauvreté extrême, inégalités régionales, chômage massif des jeunes et faible capacité fiscale, ce qui limite la fourniture de services publics et favorise l'emprise ou en tout cas l'émergence d'acteurs armés non étatiques. La croissance démographique y est parmi les plus fortes au monde, accentuant la pression sur les terres, l'eau et les villes, et rendant plus aiguë la question de l'éducation et de l'emploi. Les routes migratoires sahéliennes vers le Maghreb et l'Europe, mais aussi vers l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, font de la région un espace clé dans les politiques migratoires et sécuritaires internationales. Pour faire face à cela, le secrétaire général de l'ONU appelle à une action coordonnée.
Je suis conscient des profondes divergences politiques qui existent dans la région. Mais il est absolument essentiel que, malgré ces divergences, nous mettions en place une plateforme de coopération entre les services de renseignement et de sécurité des pays de la CDAO, de l'AES, de la Mauritanie, du Tchad et de l'Algérie, afin de permettre une action coordonnée contre le terrorisme.
Le Sahel est extrêmement vulnérables au dérèglement climatique avec des sécheresses, inondations et dégradations des sols qui modifient les modes de vie pastoraux et agricoles. La compétition pour l'accès à la terre, à l'eau et au pâturage attise les conflits agriculteurs-éleveurs et se combine avec des clivages exploités par les groupes armés. Avec nous en ligne, Monsieur Laji Karawatara, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes docteur en relations internationales, expert de la sécurité au Sahel, membre de l'Observatoire du Sahel. Monsieur Laji Karawatara, quels sont les enjeux géopolitiques et stratégiques actuellement au Sahel ?
Il y a 10 ans, le Sahel était considéré comme une périphérie des grandes questions internationales. À l'échelle de l'Afrique, le Sahel est aujourd'hui en train de se positionner comme une zone de centralité des crises. Du fait des multiples crises au Sahel, l'ordre étatique et la stabilité régionale, à la fois pour le Maghreb, mais aussi pour les pays du Golfe de Guinée, est menacée. Comme vous le savez, le Sahel fait partie des grandes zones humanitaires et aussi le Sahel concentre malheureusement beaucoup d'États fragiles. Et finalement, la coopération multinationale ne fonctionne pas, qui fragilise l'architecture de paix et de sécurité au niveau africain.
Vous insistez sur l'enchevêtrement des crises sécuritaires, sociales et politiques au Sahel. Comment ces dimensions se renforcent-elles les unes les autres, Monsieur Ouattara ?
Oui, il y a une interaction dynamique entre les différentes crises, parce que quand on remonte un peu plus loin, notamment depuis le début des indépendances, on a vu que à l'intérieur, on a eu une crise sociale et finalement une crise régionale avec l'implication, l'influence d'un pays comme la Libye dans ces pays du Sahel. Et finalement, à travers l'intervention militaire internationale, malheureux, c'est vraiment une intervention totalement malheureuse et disproportionnée. La Libye est en crise et cela a projeté sur le terrain du Sahel des armements extrêmement sophistiqués, des mercenaires qui ont contribué à la déstabilisation. Donc on voit comment est-ce qu'une crise sociale va s'enchevêtrer dans des problématiques politiques et aussi au niveau économique, ce sont des États qui ne disposent pas suffisamment de moyens pour sécuriser l'ensemble des vastes territoires. Parce que des pays comme le Niger, comme le Mali, ce sont des territoires qui dépassent ou même avoisinent dans certains cas les 1 million de kilomètres carrés. On a plusieurs facteurs et aussi la question climatique qui fait qu'on a beaucoup de sécheresse et qui amplifie la confrontation entre éleveurs nomades et finalement paysans agriculteurs. Donc concrètement, vous voyez que on a plusieurs facteurs qui s'alimentent les uns après les autres et dont tous ces éléments se combine à un contexte international.
Le Sahel est un maillon intermédiaire entre l'Atlantique, le Maghreb et les marchés européens pour les drogues, les migrants et certains biens volés. C'est une plaque tournante, ainsi est présenté le Sahel.
Oui, effectivement, le Sahel est aujourd'hui présenté comme un bouc émissaire de toutes les problématiques que vous évoquez. Mais je vous rappelle aussi que cette drogue, par exemple, évoquée n'est pas fabriquée en Afrique.
C'est
fabriquée depuis l'Amérique. Et donc, quelles sont les failles qui permettent justement à cette drogue de totalement traverser l'Atlantique et venir, par exemple, passer par le Golfe de Guinée? Et comment se fait-il que cette drogue arrive justement à tromper la vigilance des forces de sécurité de ces pays et justement arriver aux côtes du Golfe de Guinée et transiter finalement par le Sahel? Et les migrants dont on parle, il y a aussi une migration climatique. Donc, le réchauffement climatique fait que finalement, que ce soit les éleveurs, les agriculteurs, les jeunes qui travaillaient finalement avec la montée de l'océan, avec le réchauffement climatique aussi perdent leurs moyens de survie. Et donc, il y a un ensemble de facteurs qui, finalement, font en sorte que le Sahel, en réalité, est le lieu où toutes nos erreurs se manifestent, mais elle n'est pas forcément, cette zone n'est pas forcément à l'origine de tous les phénomènes que nous sommes en train d'évoquer. On parle même du terrorisme, Al-Qaïda est né dans les années 1979 en Afghanistan, dans un contexte de tension géopolitique entre deux blocs. Et finalement, cette crise, ce phénomène se retrouve être amplifié, développé, et finalement, le Sahel devient l'épicentre. Donc, clairement, on a plusieurs phénomènes qui éclate, sinon qui se dessine quelque ailleurs dans le monde, et finalement le Sahel devient un lieu de manifestation. Donc tout ceci s'inscrit dans une tendance, dans une dynamique aussi géopolitique un peu plus globale. Et donc en perdant de vue toutes ces causes exogènes, on aura du mal à avoir toutes les clés en main pour mieux comprendre les dynamiques qui se manifestent au Sahel.
Monsieur Ladji Karamoko Ouattara, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur Ladji Ouattara.
Je vous remercie.
Ladji Karamoko Ouattara est docteur en relations internationales, expert de la sécurité au Sahel, auteur de l'ouvrage « Le Sahel, enjeux géopolitiques et stratégiques au XXIe siècle ». La dégradation du Sahel et la guerre au Soudan se nourrissent mutuellement. L'arc sahélo-soudanais est en train de devenir un même espace de crise, avec des effets sécuritaires, politiques et humanitaires imbriqués. Le conflit soudanais, en s'intensifiant depuis 2023, prolonge cet arc d'instabilité vers l'Est et crée un continuum de zones grises du golfe de Guinée jusqu'à la mer Rouge. L'ONU et plusieurs analystes avertissent du risque de régionalisation de la guerre soudanaise avec une possible extension vers le Sahel via le Darfour, le Tchad, le Niger ou encore la Libye. Concrètement, cela peut se traduire par un renforcement de réseaux de contrebande, armes, or, carburant, entre le Sahel et le Soudan, et une reconfiguration, toujours selon l'ONU, des alliances militaires non étatiques. Le président de la mission internationale indépendante du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour l'établissement des faits au Soudan évoque les violations commises au Soudan.
We have found that the Sudanese warring parties...
Nous avons constaté que les belligérants soudanais, principalement les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, ainsi que leurs alliés respectifs, ont commis un nombre effroyable de violations et nous avons trouvé des motifs raisonnables de croire que bon nombre de ces violations constituent des crimes internationaux.
Avec nous en île, monsieur Noureddine Sati, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes haut fonctionnaire des Nations Unies. Vous avez été ambassadeur du Soudan aux États-Unis entre 2020 et 2022. Monsieur Noureddine Sati, les intérêts politiques sont-ils en train de reléguer au second plan l'aide et l'assistance humanitaire, notamment au Soudan?
Oui, on peut tirer cette conclusion, mais il faut quand même faire la distinction entre la volonté d'assistance humanitaire et la volonté ou la possibilité de trouver un règlement politique et les interférences de type politique ou diplomatique. Par exemple, j'ai assisté à la réunion sur la situation humanitaire et la communauté internationale a montré quand même une certaine solidarité pour venir auprès du Soudan. Mais il y a des complications qui empêchent cette volonté de se réaliser, de se transformer en action concrète. Donc, volonté d'assistance humanitaire, certes, mais confrontation à une certaine situation compliquée sur le terrain, surtout de type sécuritaire, qui empêche peut-être que l'assistance humanitaire arrive à destination. Moi, je ne peux pas généraliser en disant qu'il n'y a pas de volonté de venir auprès du Soudan, d'assister du Soudan du point de vue humanitaire, mais il y a défaillance diplomatique ou politique, que ce soit au niveau régional ou au niveau international.
Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il y a une relation, on va dire, de cause à effet ou une déclinaison, hélas logique, entre la situation humanitaire aujourd'hui et le soutien extérieur en termes de fourniture militaire?
Certainement. La continuation de la guerre impacte sur la situation humanitaire, c'est certes. Et ceux qui fournissent ces armes au Soudan sont responsables de la précarité, disons, de la situation humanitaire. Certainement, il y a un lien, disons, direct entre la fourniture d'armement et la continuation de la guerre et par la suite donc, la détérioration permanente et continue de la situation humanitaire.
Alors justement, ces parties extérieures que nous évoquions entretiennent cette situation pour des raisons tantôt militaires, tantôt politiques.
Certainement, il y a toujours des objectifs politiques. Il y a certainement des raisons pour lesquelles ces forces de part et d'autre continuent à appuyer les uns et les autres des deux parties. Il y a des objectifs politiques, certainement, ou géostratégiques, qui sont parfois très difficiles, disons, à déceler et même à comprendre ou à justifier.
Est-ce qu'il faille aujourd'hui penser et dire que le Soudan est pris au piège des rivalités internes et d'ingérences étrangères ?
Absolument, absolument. Les rivalités internes qui impactent sur les ingérences externes et vice-versa. Vous n'êtes pas sans savoir que l'armée soudanaise avait été appelée à intervenir dans la guerre du Yémen. Donc, il y a plus ou moins, disons, une implication des deux côtés dans ce drame qui grippe le Soudan depuis plusieurs années. Et ce que nous assistons aujourd'hui, ce n'est qu'une nouvelle phase dans cette rivalité entre les deux factions de l'armée, de les forces armées soudanaises, du côté l'armée officielle et de l'autre côté FRS, qui se battent aujourd'hui sur les dépouilles de la nation soudanaise et du pays soudanais, avec l'assistance de certaines forces étrangères, qui est difficile à nommer maintenant.
Quel enjeu représente le Soudan ? Est-ce qu'il s'agit d'enjeux financiers ? Est-ce qu'il s'agit d'intérêts stratégiques ? Est-ce qu'il s'agit, tel que cela est présenté de façon basique, de mines d'or que certains voudraient continuer à exploiter ? De quoi est-il question, M. Nordine Sati ?
Il s'agit de tout ça, madame. Il s'agit de tout ça. Il s'agit d'intérêts géostratégiques. Certes, le Soudan est un pays juste stratégiquement important, dans le sens qu'il se retrouve sur la mer Rouge. Et nous savons très bien ce qui se passe sur la mer Rouge aujourd'hui, dans le sud, que ce soit dans le sud de Bab el-Mandab ou bien dans le nord du côté de Gaza. Et l'embrasement du Soudan, de la côte soudanaise, va affecter considérablement l'intérêt de beaucoup de pays. Donc le contrôle de la côte soudanaise est primordial pour les forces régionales et internationales. Le Soudan, là où se avoisine l'Égypte, l'Éthiopie, le Sud-Soudan, le Tchad, la Libye, le Centrafrique, l'Érythrée et l'Iran. Il commande une position stratégique entre le Sahel et la mer Rouge. Donc, il y a beaucoup d'intérêts. Le Soudan aussi détient quand même des matières premières stratégiques qui sont importantes pour des industries nouvelles. L'or au Soudan, l'or du Darfour, du Kordofan, du Soudan central, du Soudan du Nord, du Soudan de l'Est, également attire beaucoup de velléités. Donc il y a beaucoup d'intérêt et que le Soudan, qui a été négligé pendant trop longtemps, qui est minimisé un peu comme un petit pays politiquement, commande une position stratégique quand même qui attire beaucoup d'intérêt. Il y a eu des visites d'une haute personnalité russe pour Soudan qui a exprimé son appui au gouvernement de Soudan. Donc déjà, la guerre Ukraine-Russie...
Il faut quand même préciser que la Russie voulait construire une base ou installer une base militaire à Port-Soudan, M. Nordine Sati.
C'était à l'époque où j'étais ambassadeur à Washington, mais je crois que j'ai joué mon rôle pour rassurer les Américains que cela n'allait pas arriver. À l'époque, c'était une situation tout à fait différente. Nous essayons à l'époque à intéresser les Américains un peu pour accélérer leur assistance au Soudan. Quand il se plaignait, à l'époque, le président Trump en personne se plaignait du fait que le Soudan allait offrir à la Russie l'occasion de construire une base sur la mer Rouge. Et on a rassuré les Américains comme disant cela n'allait jamais arriver.
Et qu'est-ce que les Américains offraient en contrepartie, M. Nordine Sati ?
Justement, il y a eu beaucoup de retard. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il y a eu beaucoup d'assistance qui avait été promise à l'époque, qui ne s'est pas matérialisée. Et puis, il y a eu le coup d'État du 21 octobre 2021, qui a coupé la route à toute tentative de rapprochement avec les Américains.
Monsieur Nordine Sati, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, madame.
On participait à ce programme, Ladji Karawatara, docteur en relations internationales, expert de la sécurité au Sahel, membre de l'Observatoire du Sahel, Thinking Africa. Hassan Moulay, enseignant, chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Azizou Garba Brimaka, fondateur du Centre africain de réflexion sur les enjeux globaux. Noureddine Sati, diplomate soudanais. L'Histoire en marche arrive à son terme. L'émission a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro. Ce numéro était le dernier numéro de la saison. Merci de nous avoir prêté attention. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.
هذا أنا، هذا أنا، من بين رمادي وجرحي وحنيني ولدت أنا. أدمنت أحزاني فصرت أخاف أن لا أحزن، وطعنت آلافا من المرات حتى صار يوجعني بأن لا أطعن، ولعنت في كل اللغات وصار يقلقني بأن لا ألعن. أدمنت حزني حتى صرت أخاف يوما يمر بلا ألم يسكنني. طعنتني الدنيا ألف مرة حتى تعلم قلبي كيف يقسو. تشابهت المدن في عيني لهذه أرضي ولا تلك لي، ووجوه الناس مرايا تمضي ولا أحد يعرف من أكون أنا. لكن روح تقول أنا أنا نار لا تنطفئ، أنا حلم لا ينكسر. إن صادروا من يدي وطنا جعلت القصيدة لي مستقرا. لقد شنقت على جدار قصائدي، ووصيتي كانت بأن لا أدفن. وتشابهت كل البلاد فلا أرى نفسي هناك، ولا سادتي. قاتلت عصرا لا مثيل لقبحه، وفتحت جرح قبيلة المتعفلة. أنا لست مكترسا بكل الباعة المتجولين، وكل كتاب البلاط، وكل من جعلوا الكتابة حرفة مثل الزنا. قاتلت عصرا قاسيا لم يترك الحلم للضعفاء، لكنني رغم كل الجراح أكتب اسمي على السماء.
موطني.